Journal de George Fox 1652-1655 Un rang emprisonnement et jusqu'à Londres page 1 quand les sessions furent terminées, James Naylor, qui était présent, donna dans une lettre un bref récit de ce qui s'y était passé, qu'il écrivit peu après aux amis, et qu'on ajoute ici pour une plus grande satisfaction du lecteur. Chers amis et frères dans le Seigneur Jésus-Christ, mon cher amour va à vous tous, désirant que vous soyez gardés fermes dans le Seigneur Jésus-Christ et dans la puissance de son amour, afin. Chers amis, le Seigneur manifeste grandement son amour et sa puissance en ces contrées. Le deuxième jour de la semaine dernière, mon frère Georges et moi étions à Lancaster. Il y avait beaucoup d'amis venus de toutes parts, et un grand nombre qui prenaient le parti des prêtres, lesquels firent savoir qu'ils espéraient désormais nous voir arrêter, cette grande œuvre qui avançait si vite et avec tant de puissance, au point que leur royaume avait été fortement ébranlé. Nous fûmes appelés devant le juge Fell, le colonel West, le juge de Pessory, etc., pour répondre à ce qui était imputé à Georges. Il y avait 3 témoins pour 8 chefs d'accusation, mais ils étaient très confus en eux-mêmes, ce qui apporta beaucoup de lumière à la vérité, de sorte que les juges de paix virent clairement qu'il s'agissait d'envie, et ils le leur dirent plusieurs fois. L'un des témoins était un jeune prêtre, qui reconnut qu'il n'avait pas été partie prenante et ne se serait pas mêlé de cela si un autre prêtre ne l'avait pas fait appeler en lui disant de le faire. Les autres témoins étaient 2 files de prêtres. Il fut établi par beaucoup de personnes qu'il avait entendu dire que, s'il en avait le pouvoir, il ferait renier à Georges sa profession et qu'il le tuerait. Il n'eut qu'un seul témoin pour l'un des plus grands mensonges portés contre Georges. Les juges de paix lui dirent qu'ils croyaient que, parce qu'il ne pouvait pas assassiner Georges, il cherchait à lui enlever sa liberté. Un prêtre fut choisi parmi tous comme porte-parole pour plaider contre nous. Il ne ménagea aucun effort pour montrer son envie contre la vérité. Et quand il ne put l'emporter, il descendit dans une rage, et plusieurs d'entre eux entrèrent dans la salle, parmi lesquels se trouvait Jacques. Georges parlait alors dans la salle, l'un des juges de paix lui ayant demandé de parler s'il avait quelque chose à dire, et à ce moment-là, le prêtre Jacques entra dans une telle fureur qu'il se mit à évoquer plusieurs assertions hautaines contre la vérité que mon cher frère Georges aurait prononcées, l'une d'elles était que la lettre et l'esprit étaient inséparables. Alors les juges de paix se levèrent et lui dirent de le prouver avant d'aller plus loin. Se voyant pris, il essaya de le nier, et comme il ne pouvait se tirer de son erreur par des paroles, les autres prêtres tentèrent de l'aider à donner un sens à ses mots. Mais les juges de paix n'admirent aucun autre sens que le sens clair des mots et lui dirent qu'il avait avancé une position et qu'il convenait qu'il l'approuvât, exerçant sur lui une forte pression. Les prêtres, réduits au silence, perdirent alors l'affaire avec une rage encore plus grande qu'auparavant. Après avoir perdu l'affaire, et lorsqu'on leur demanda ce qu'ils avaient fait, certains mentirent en disant qu'ils n'avaient pas pu entrer dans la salle, cherchant à cacher leur honte et à maintenir le peuple dans l'aveuglement. Les juges de paix, le juge Fell et le colonel West furent très convaincus de la vérité et statuèrent selon la justice et l'équité. Leur décision a beaucoup apaisé la fureur du peuple. Beaucoup d'esprits amés étaient à Lancaster pour voir l'issue, mais ils rentrèrent chez eux en pleurant que les prêtres avaient perdu la journée. Louanges éternelles à celui qui a combattu pour nous, qui est notre roi pour toujours. On appela d'autres personnes, que les témoins avaient reconnues comme étant dans la salle lorsque les propos imputés à Georges auraient été dits. Mais tous, comme un seul homme, nièrent que de tels mots aient été prononcés, ce qui éclaira beaucoup les juges de paix, et ils s'en tinrent à ce dont ils avaient été témoins, car ils disaient en connaître plusieurs comme des hommes honnêtes. Un mandat avait été accordé contre nous à Appleby, mais le juge de paix Benson leur dit que ce n'était pas conforme à la loi, et ainsi cela cessa. J'entends dire que c'est un homme fidèle à la vérité. Les prêtres se mirent à prêcher contre les juges de paix, disant qu'ils ne devaient pas se mêler de ces choses, mais régler les différends entre voisins et voisins. Ils ne sont pas satisfaits de la loi, parce qu'elle ne prévoit pas, dans les statuts, de nous emprisonner, comme le prêtre qui plaida contre nous l'avait affirmé. Les juges de paix lui dirent d'aller l'inscrire dans les statuts s'il le pouvait. Le prêtre répondit qu'il n'avait pas à le faire. Ils craignent fort de tout perdre. Ils sont très mécontents en ces contrées, et certains d'entre eux crient « Tout est perdu ! Chers amis, demeurez dans la patience et attendez le Seigneur qui fera son œuvre. Ne regardez pas l'homme, dans l'œuvre, ni l'homme qui s'est opposé à l'œuvre, mais reposez-vous dans la volonté du Seigneur, afin d'être pourvu de patience, tant pour faire que pour souffrir ce à quoi vous serez appelés, que votre fin en toute chose soit sa louange. Prenez librement sa croix, qui maintient bas l'homme charnel. » Afin que Christ soit élevé et honoré en toutes choses, que la lumière soit avancée en vous et que le jugement soit établi, qui doit prononcer sentence contre tous ceux qui se sont opposés à la vérité. Que la captivité soit menée captive, et que le prisonnier soit mis en liberté pour chercher le Seigneur, que la justice règne en vous, et que la paix et la joie demeurent en vous, là où est le royaume du Père, à qui soit toute louange à jamais. Chers amis, réunissez-vous souvent et prenez garde à ce qui s'élève au-dessus de son frère, demeurez humbles et servez-vous les uns les autres dans l'amour pour l'amour du Seigneur. Que tous les amis sachent comment il en est de nous, afin que Dieu reçoive la louange de tout. James Naylor écrit de Calais, le 30 jour du 8 mois 1652. À ce moment-là, j'étais dans un jeûne et ne devais pas manger jusqu'à ce que cette œuvre de Dieu, qui pesait alors lourdement sur moi, fût accomplie. Mais la puissance du Seigneur fut merveilleusement exaltée, et il donna à la vérité et aux amis la domination là-bas sur tous pour sa gloire, et son évangile fut prêché librement ce jour-là par-dessus la tête d'environ 40 prêtres mercenaires. Je restai ensuite 2 ou 3 jours à Lancaster et j'y eus quelques réunions. Les gens les plus grossiers et les plus vils complotèrent ensemble pour me tirer hors de la maison et me jeter du pont de Lancaster, mais le Seigneur les en empêcha. Alors ils inventèrent un autre méfait, qui fut ceci, après une réunion à Lancaster, ils amenèrent un homme dérangé, et un autre avec lui, portant des faisceaux de verges de bouleau liés ensemble comme un balai avec lesquels ils auraient voulu me fouetter, mais je fus poussé à leur parler dans la grande puissance du Seigneur, qui enchaîna l'homme dérangé et l'autre aussi, et la puissance du Seigneur étant sur eux, ils s'en allèrent paisiblement. Mais les prêtres, s'irritant de se voir renversés aux sessions de Lancaster, obtinrent l'appui de quelques juges de paix envieux, et à l'assise suivante à Lancaster, ils informèrent le juge Windham contre moi. Sur quoi le juge prononça un discours contre moi en audience publique et ordonna au colonel West, qui était greffier de l'assise, de délivrer un mandat pour m'arrêter, mais le colonel West dit au juge que j'étais innocent et parla hardiment pour ma défense. Pourtant le juge lui ordonna de nouveau soit d'écrire un mandat, soit d'abandonner sa charge de greffier et son siège. Alors il déclara clairement au juge qu'il ne le ferait pas, mais qu'il offrirait tout son bien et même son corps pour moi. Ainsi il arrêta le juge, et la puissance du Seigneur vint sur tous, de sorte que les prêtres et les juges de paix ne purent faire exécuter leur envie. La même nuit, au temps de l'assise, je vins à Lancaster, et ayant entendu parler d'un mandat qui devait être lancé contre moi, je jugeai préférable de me montrer ouvertement plutôt que de laisser mes adversaires me chercher. Je me rendis donc aux appartements du juge Fell et du colonel West. Dès que j'entrai, ils me sourirent, et le colonel West dit « Quoi ? Es-tu venu dans la gueule du dragon ?» Je restai jusqu'à ce que le juge sortît de la ville, et je me promenai dans la ville, mais personne ne me gêna ni ne me questionna. Ainsi la puissance bénie du Seigneur, qui est au-dessus de tout, me fit traverser et surmonter cette épreuve, donna la domination sur ses ennemis, et me rendit capable de continuer son œuvre et son service glorieux pour l'amour de son grand nom. Car bien que la bête fasse la guerre aux saints, l'agneau a obtenu et obtiendra la victoire. De Lancaster, je retournai chez Robert Withers. De là, j'allai chez Thomas Lepée pour une réunion le soir, et nous y eûmes une réunion très bénie, après quoi, je marchai le soir pour retourner chez Robert Withers. À peine étais-je parti qu'une troupe d'hommes déguisés vint chez Thomas Lepée, avec des épées et des pistolets. Ces hommes entrèrent soudain dans la maison, éteignirent les chandelles et brandirent leurs épées autour des gens de la maison, si bien que ceux-ci furent forcés de lever des chaises devant eux comme des boucliers pour éviter d'être tailladés et blessés. Enfin, les hommes déguisés chassèrent toutes les personnes hors de la maison, puis fouillèrent la maison pour me chercher, car il semble que j'étais la seule personne qu'ils cherchaient. Avant d'entrer dans la maison, ils s'étaient cachés près de la grande route que j'aurais empruntée si j'avais été à cheval pour aller chez Robert Withers. Quand je ne passais pas par la route, ils pensèrent me trouver dans la maison de Thomas Lepée, mais le Seigneur les en empêcha. Peu après mon arrivée chez Robert Withers, quelques amis de la ville où habitait Thomas Lepée nous parlèrent de cette tentative méchante. Ils craignaient que ces mêmes gens ne viennent aussi chez Robert Withers pour me faire du mal, mais le Seigneur les retint car ils ne vinrent pas. Ces hommes étaient déguisés, pourtant des amis discernèrent que certains d'entre eux étaient français et conclurent qu'ils étaient des serviteurs de Sir Robert Bindla, car quelques-uns d'entre eux avaient dit qu'en France, ils avaient coutume d'attacher les protestants aux arbres et de les fouetter et tuer. Ces serviteurs maltraitaient souvent les amis, tant dans les réunions qu'en allant et venant à leurs réunions. Un jour, ils traînèrent Richard Hubert Bourne et plusieurs autres hors de leur réunion, les emmenèrent loin dans les champs, les attachèrent et les laissèrent dans les champs en pleine saison d'hiver. Une autre fois, l'un de ses serviteurs vint chez Francis Fleming et passa son épée nue par la porte et les fenêtres, mais un parent de Francis Fleming, qui n'était pas un ami, vint avec un petit gourdin et dit au serviteur de rengainer son épée. Le serviteur refusa, le menaça au contraire avec l'épée et se montra insolent. Le parent de Francis frappa le serviteur, le renversa, lui prit son épée, et sans l'intervention des amis, l'aurait transpercé avec. Ainsi les amis lui conservèrent la vie, bien qu'il eût voulu détruire la leur. De chez Robert Withers, j'allai visiter le juge de paix West, Richard Robeson m'accompagnant. Ne connaissant pas le chemin ni le danger des sables, nous chevauchâmes là où aucun homme n'avait jamais chevauché auparavant, nous dit-on ensuite, et nous fîmes nager nos chevaux à travers un endroit très dangereux. Quand nous fûmes arrivés, le juge de paix West nous demanda si nous avions vu deux hommes traverser les sables à cheval. Il dit, « Puisque je suis couronné, j'aurai bientôt leurs vêtements, car ils ne peuvent échapper à la noyade. » Mais lorsque nous lui dîmes que nous étions ces hommes, il fut stupéfait et se demanda comment nous avions échappé à la noyade. Sur la base de cet incident, les prêtres et professeurs envieux répandirent un faux et diffamatoire bruit selon lequel l'eau ne pouvait pas me noyer, et qu'il ne pouvait pas me faire saigner, et que j'étais donc un sorcier. En réalité, parfois, lorsqu'ils me frappaient avec de gros bâtons, ils ne tiraient pas beaucoup de sang, bien qu'ils meurtrissent mon corps très cruellement. Je ne me souciais nullement de ces calomnies pour ma personne, quoique je fusse préoccupé pour la réputation de la vérité, car je voyais qu'avec de telles calomnies, ils cherchaient à préjuger le peuple contre la vérité. Je considérais que leurs ancêtres, les Juifs apostats, avaient appelé le maître de la maison Béelzébul, et ces chrétiens apostats de la vie et de la puissance de Dieu ne pouvaient en faire moins envers ses vrais disciples. Mais la puissance du Seigneur me porta au-dessus de leur langue calomnieuse et de leurs esprits sanglants et meurtriers, qui avaient en eux-mêmes le fond de la sorcellerie, ce qui les empêchait de venir à Dieu et à Christ. À peu près à ce moment-là, Richard Robeson était dans un grand jeûne et devint faible. Les gens le croyaient mort et envoyèrent chercher plusieurs amis, mais avant qu'il n'arrive, la puissance du Seigneur le releva. En chemin vers lui, les amis le rencontrèrent avec une bouteille, allant chercher de l'eau à boire. Ainsi les amis admirèrent la merveilleuse puissance de Dieu et son œuvre. À peu près à ce moment-là, George Fox publia un écrit concernant la parole, comme suit, « George Fox concernant la parole, 1652 au commencement était la parole, et nul ne connaît cette parole, sinon ceux qui sont parvenus au commencement. Maintenant vous tous, gens et ministres, qui de vous peut en rendre témoignage, qui de vous est parvenu à cet état ? Qui de vous est parvenu au commencement ? Nous vous déclarons ce que nos mains ont touché et ce que nos yeux ont vu, ce qui était dès le commencement, la parole de vie. Nous qui connaissons cette parole sommes purs, rendus nets par la parole, sanctifiés par la parole, mis en pièces par la parole et séparés par la parole. Cette parole est un marteau, abattant tout afin que la semence de Dieu puisse relever découvrir, et nous sommes parvenus au commencement. Tous ceux qui connaissent cette parole sont entrés dans le commencement. Elle est comme un feu, consumant toutes les corruptions, et c'est cette parole qui est près de vous, dans votre cœur. C'est par cette parole que tous les prophètes ont parlé, et c'est cette parole qui a été faite chair et a demeuré parmi nous, disent les saints. C'est la parole de vie que les apôtres ont prêchée, la substance de toutes les figures, types et ombres. C'est cette parole qui fait que tous les saints ne sont qu'un, qui réconcilie tous leurs cœurs ensemble au Seigneur. C'est par cette parole que toutes choses subsistent, demeurent et sont soutenues par sa parole et sa puissance. C'est cette parole qui demeure à jamais. Tous ceux qui sont nés de nouveau de la semence immortelle rendent témoignage avec moi cette parole. Maintenant la parole est manifestée, montrée comme elle l'a toujours été, elle rassemble les cœurs des hommes, elle sépare le précieux du vil, et des deux détruisant le vil, elle a fait un. C'est cette parole qui vous fait voir que toute chair est comme l'herbe. C'est cette parole qui était avant qu'aucune lettre écriture fût écrite. Tous ceux qui n'ont pas cette parole prennent la lettre Bible pour la parole, et sont dans la nature de Caïn, envieux et meurtriers, courant vite vers le mal. Dieu n'accepte pas le sacrifice de Caïn. Toutes vos prédications, toutes vos prières, toutes vos lectures, tous vos chants et vos expositions, toutes vos églises, tous vos cultes, tous vos docteurs et tous vos baptêmes, ce sont des inventions tirées de la lettre Bible, inventées et imaginées par vos esprits charnels, tout cela est pour le feu. Votre profession doit être liée en faisceaux et jetée au feu, car ce sont toutes des œuvres de la chair, procédant de la première nature. Vous qui vivez dans la première nature, ne connaissant pas la parole de Dieu mais seulement la lettre n'ayant qu'une connaissance tirée de la Bible, vous crucifiez le juste, et vous vous élevez à la place du juste, éteignant la lumière en vous, avec la tromperie se transformant en place du juste, comme Caïn lorsqu'il tua son frère Abel. Il se leva à la place de son frère et dit, « Suis-je le gardien de mon frère ? Ainsi vous tous qui crucifiez le juste, vous êtes comme Caïn, car c'est le juste que Dieu accepte, la seconde naissance. Comme vous le lisez, le sacrifice de Caïn ne fut pas accepté par Dieu, mais Abel, la seconde naissance, Dieu l'accepta car il était juste. Caïn assassina Abel parce que les œuvres d'Abel étaient justes, et celles de Caïn mauvaises. Maintenant vous tous qui êtes dans la première naissance, vous êtes Caïn dans l'envie meurtrier, et Dieu n'accepte pas votre sacrifice. Or tous ceux qui viennent à la parole viennent à avant Caïn. Tous les prophètes du Seigneur parlèrent depuis cette parole, puis les faux prophètes prirent la forme de la parole des vrais prophètes, mais n'avaient pas la parole. Alors le Seigneur envoya ses prophètes, qui avaient sa parole, crier contre les prophètes qui disent une divination de leur propre cerveau et volent ma parole à leur prochain. Ils se servent de leur langue et disent « Le Seigneur a dit », alors que le Seigneur ne leur a pas parlé. Comme c'était alors, ainsi c'est maintenant. Tous les docteurs religieux du monde disent une divination de leur propre cerveau et non de la bouche du Seigneur. Le Seigneur est contre eux. Maintenant j'en rends témoignage par la même parole que toujours. Ainsi ils attirent les gens vers la lettre Bible et disent au peuple que la lettre Bible est la parole et qu'il faut écouter ceux qui parlent, depuis leurs vaines imaginations, de ce que cela signifie. Ainsi ils dominent les pauvres gens par leurs moyens, ce contre quoi le Seigneur a toujours été. Car Dieu est libre et veut que son peuple soit libre, et son évangile est gratuit, et ses miséricordes sont gratuites, et sa grâce est gratuite. Son évangile est gratuit pour toute créature, et sa grâce est gratuite pour toute créature. Sa grâce n'est pas la lettre Bible, l'évangile n'est pas la lettre Bible, ses bonnes nouvelles ne sont pas la lettre. Car bien des âmes pauvres et troublées peuvent être sous la mort et la condamnation tout en ayant la lettre, et elles y gisent blessées sans paix, jusqu'à ce que Jésus apporte les bonnes nouvelles de l'Évangile gratuit. Alors vous témoignerez avec moi que l'Évangile est un Évangile gratuit et qu'il ne doit pas être acheté ni vendu pour de l'argent et que la grâce de Dieu est gratuite. Écoutez, vous tous qui avez soif, venez à l'eau de la vie. Celui qui n'a pas d'argent, venez acheter du vin et du lait sans argent et sans prix, et écoutez attentivement afin que vos âmes vivent, et je conclurai avec vous une alliance éternelle, les grâces assurées de David. Ainsi que tous les hommes considèrent et voient s'ils peuvent témoigner que leurs âmes ont été relevées hors de la mort et qu'ils ont été introduits dans cette alliance éternelle. Qui donc peut témoigner que son âme a été tirée hors de la mort? Êtes-vous parvenu au commencement? Mais vous n'avez que la lettre, et vous dépensez votre argent et votre travail sans être rassasié, vous dépensez votre argent pour ce qui n'est pas du pain. Vous suivez des chiens muets et avides qui ne peuvent jamais être rassasiés. Ce sont les prêtres de Baal qui ont abandonné la bonne voie, suivant l'erreur de Balaam pour salaire, courant dans la voie de Caïn, qui aima le salaire de l'injustice, qui assassine toujours le juste, méprisant le droit d'aînesse en particulier. Comme Caïn tuant le juste qui le tue en particulier, la même nature tue en général, là où la semence juste guide, règne et est la tête. Ainsi la génération de Caïn n'est qu'une, qui est la première naissance. Maintenant, en aimant la lumière, elle vous conduira loin de tous les hommes, de sorte que vous n'aurez plus jamais à regarder à l'homme pour être guidé ou enseigné. George Fox, pour en savoir davantage sur la vraie parole, voir James Pownell, le Christ ou l'Écriture gouverne-t-il? Et mes brebis entendent ma voix, après avoir rendu visite au juge de paix ouest, j'allais à Swarthmore visitant les amis, et la puissance du Seigneur fut sur tous les persécuteurs là-bas. Je fus poussé à écrire des lettres aux magistrats, prêtres et professeurs du pays, qui avaient auparavant suscité la persécution. Celle au juge de paix Sorry était de cette teneur, « Ami, tu as commencé toutes les persécutions dans le Nord. Tu en as été l'initiateur et celui qui a agité le peuple. Tu as été le premier à l'exciter contre la semence juste et contre la vérité de Dieu, le premier qui a fortifié les mains des malfaiteurs contre l'innocent et l'inoffensif, et tu ne prospéreras pas. Tu as été le premier à soulever au Nord frappeurs, lapideurs, persécuteurs, metteurs au pilori, moqueurs et emprisonneurs, ainsi que des insulteurs, calomniateurs, railleurs, faux accusateurs et semeurs de scandales. C'était ton œuvre, et c'est toi qui as excité cela. Ainsi tes fruits déclarent ton esprit. Au lieu d'éveiller dans le peuple l'esprit pur, tu as excité les méchants, les malveillants et les envieux, et tu t'es associé aux méchants. Tu as rendu les esprits du peuple envieux à travers tout le pays, c'était ton œuvre. Mais Dieu a abrégé tes jours, t'a limité et a fixé tes bornes, t'a brisé les mâchoires, a exposé ta religion aux simples et aux nouveau-nés, et a mis tes actes en lumière. Comme ta maison est tombée et devenue la maison des démons, ta beauté est perdue et ta gloire s'est flétrie. Comme tu as manifesté ton mal, n'ayant servi Dieu que des lèvres, tandis que ton cœur est loin de lui, et que tu es un hypocrite, comme la forme de ton enseignement s'est révélée être la marque des faux prophètes, dont le fruit se manifeste, car c'est à leur fruit qu'on les connaît. Comme les sages sont retournés en arrière, regarde tes voies, prends garde à ceux avec qui tu t'es joint. Ce qui est de Dieu, dans ta conscience te le dira, l'ancien des jours te reprendra. Comme ton zèle s'est révélé être le zèle aveugle d'un persécuteur, que Christ et ses apôtres ont défendu aux chrétiens de suivre, comme tu as fortifié les mains des malfaiteurs, et accepté leurs louanges, et non celles de ceux qui font le bien. Comme un insensé et un aveugle, tu as retourné ton épée contre les saints, contre lesquels il n'y a pas de loi. Comme tu seras un jour rongé et brûlé, lorsque tu sentiras la flamme, que les fléaux de Dieu seront versés sur toi, et que tu commenceras à te ronger la langue de douleur à cause des fléaux, tu auras ta récompense selon tes œuvres. Tu ne peux pas échapper, le juste jugement du Seigneur te rattrapera, et le témoignage de Dieu dans ta conscience y répondra. Comme tu as poussé les païens à blasphémer, suivi la multitude pour faire le mal, et joint la main à la main avec les méchants. Comme ta fin dernière est pire que ton commencement, toi qui es arrivé avec le chien pour mordre et t'es tourné en loup pour dévorer les agneaux, comme tu t'es révélé être un homme plus propre à être gardé dans un lieu où l'on est nourri qu'à être placé dans un lieu pour nourrir, comme tu as été exalté et gonflé d'orgueil. Et maintenant tu es tombé dans la honte, de sorte que tu es couvert de ce que tu as excité et créé. Que John Sorry ne prenne pas les paroles de Dieu dans sa bouche jusqu'à ce qu'il soit réformé, qu'il ne prenne pas son nom dans sa bouche jusqu'à ce qu'il se détourne de l'iniquité. Que ni lui ni son docteur ne fassent profession des paroles des saints, à moins qu'ils n'entendent se proclamer eux-mêmes hypocrites, dont les vies sont si contraires à celles des saints, dont l'Église s'est manifestée être une cage d'oiseaux impurs. Vous, ayant une apparence de piété, mais non la puissance, vous avez fait de ceux qui sont dans la puissance votre dérision, votre proverbe et le sujet de vos propos à vos festins. Ta mauvaise odeur, John Sorry, la campagne d'alentour l'a sentie, et tous ceux qui craignent Dieu ont eu honte de ta conduite non chrétienne, et pour eux tu as été un sujet de tristesse, au jour du jugement tu le sauras, au jour même de ta condamnation. Tu t'es élevé et as placé ton nid en haut, mais tu n'es jamais monté plus haut que les oiseaux du ciel. Mais maintenant tu as couru parmi les bêtes de proie et es tombé dans la terre, de sorte que la mondanité et l'avarice t'ont englouti. Ta présomption ne t'a pas fait passer au travers, le principe égoïste en toi a aveuglé ton œil. Ton dos doit être courbé toujours, car ta table est déjà devenue ton piège. George Fox, juge de Pessori, qui fut le premier persécuteur dans ce pays, fut ensuite noyé. La vengeance de Dieu rattrapa l'autre juge de Paix Thompson. Il fut frappé d'une paralysie mortelle alors qu'il siégeait au banc. On l'emporta de son siège et il mourut. J'écrivis aussi à William Lampitt, le prêtre d'Ulverston, ainsi, la parole du Seigneur pour toi, ô Lampitt. Tu es un trompeur, repus et ivre de l'esprit terrestre, vagabondant de ci de là dans les Écritures et mêlant ton esprit aux états des saints. Tu avais une prophétie, comme ton père Balaam en avait une, mais tu t'en es écarté, comme ton père l'a fait. Toi dont le fruit s'est flétri, j'en suis témoin, et beaucoup qui ont connu ton fruit ont vu sa fin, qu'il est flétri, et ils voient où tu en es dans le monde aveugle, guide aveugle des aveugles, une bête se vautrant et se roulant dans la terre et dans la convoitise, un homme qui s'est égaré loin de l'esprit du Seigneur, anciennement destiné à la condamnation. Tu es assis sur le siège des pharisiens, tu es appelé maître par les hommes, tu te tiens debout priant dans les synagogues et tu as la première place dans les assemblées, vrai hypocrite sur les traces des pharisiens et dans les voies de tes pères, les hypocrites, contre lesquels notre Seigneur Jésus-Christ a prononcé malheur. Tel tu es vu dans la lumière, et saisi par la lumière, ce qui est ta condamnation, toi qui la hais, et il en sera ainsi éternellement à moins que tu ne te repentes. Pour toi ceci est la parole de Dieu, car tu n'es pas dans la voie de Christ, mais dans celle des pharisiens, comme tu peux le lire en Matthieu 23. Tous ceux qui reconnaissent les paroles de Christ peuvent te voir dans la voie des pharisiens. Christ, qui mourut à Jérusalem, a prononcé malheur contre les gens de ton espèce, et Christ est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Le malheur demeure sur toi, et tu ne pourras jamais t'en échapper sinon par le jugement, la condamnation et une vraie repentance. Pour toi, ceci est la parole de Dieu. Je parle à ce qui est de Dieu dans ta conscience, qui attestera la vérité de ce que j'écris et te condamnera. Et lorsque tu seras dans tes tourments, bien que maintenant tu enfles dans ta vanité et vives dans la méchanceté, souviens-toi qu'on t'a averti durant ta vie. Quand la condamnation éternelle sera étendue sur toi, tu verras que ceci est la parole du Seigneur Dieu pour toi. Et si jamais ton œil venait à voir la repentance, tu témoignerais que j'ai été un ami de ton âme. George Fox, ayant ainsi déchargé ma conscience envers le juge de paix et le prêtre d'Ulverston, qui avait suscité la première persécution dans ce pays, il m'incombait d'envoyer par écrit cet avertissement au peuple d'Ulverston en général. Considérez, aux gens qui êtes dans la paroisse d'Ulverston, j'ai été mû par le Seigneur à venir dans vos lieux publics pour vous parler, étant envoyé de Dieu pour diriger vos esprits vers lui, afin que vous sachiez où trouver votre maître, que vos esprits soient affermis uniquement sur Dieu, et que vous ne vagabondiez pas au dehors en cherchant un maître, car le Seigneur Dieu seul enseignera son peuple. Il est venu pour l'enseigner et pour rassembler son peuple hors des temples d'idoles et des cultes coutumiers auxquels le monde entier a été formé. Et Dieu a donné à chacun de vous une mesure de son esprit selon votre capacité, menteurs, ivrognes, fornicateurs et voleurs, et vous qui suivez tous vos plaisirs, vous avez tous cette mesure en vous. Et c'est la mesure de l'Esprit de Dieu qui vous montre le péché, le mal et la tromperie, qui vous fait voir que mentir est péché, que le vol, l'ivrognerie et l'impureté sont des œuvres des ténèbres. Prenez donc garde à votre mesure, car rien d'impur n'entrera dans le royaume de Dieu, et estimez votre temps tant que vous l'avez, de peur que le temps ne vienne où vous direz avec tristesse, « Nous avions du temps, mais il est passé. » Oh, pourquoi voulez-vous mourir? Pourquoi choisissez-vous vos propres voies? Pourquoi suivez-vous le cours du monde? Pourquoi suivez-vous l'envie, la malice, l'ivrognerie et les plaisirs insensés? Ne savez-vous pas, dans vos consciences, que tout cela est mal et péché, et que ceux qui pratiquent ces choses n'entreront jamais dans le royaume de Dieu? Oh, si vous vouliez considérer et voir comment vous avez dépensé votre temps, et prendre garde à la manière dont vous dépensez votre temps, et observer qui vous servez, car le salaire du péché c'est la mort. Ne savez-vous pas que tout ce qui dépasse oui et non vient du mal? Ô ivrogne, qui vivez dans l'ivrognerie, pensez vous échapper au feu, au jugement de Dieu. Même si vous enflez de venin et vivez quelque temps dans la convoitise, Dieu vous découvrira et vous amènera en jugement. Aimez donc la lumière dont Christ vous a éclairé, lui qui a dit « Je suis la lumière du monde, qui éclaire tout homme venant dans le monde ». L'un aime la lumière et apporte ses œuvres à la lumière, et il n'y a aucun motif de trébucher, l'autre est la lumière parce que ses œuvres sont mauvaises et la lumière le reprouvera. Vous qui haïssez cette lumière, vous l'avez. Vous savez que mentir est mal, que l'ivrognerie est mal, que jurer est mal, que la fornication, le vol, toute impiété et toute injustice sont des maux. Christ Jésus vous a donné assez de lumière pour vous faire voir que ces choses sont mauvaises. Cette lumière, si vous l'aimez, vous enseignera la sainteté et la justice, sans lesquelles nul ne verra Dieu, mais si vous haïssez cette lumière, elle est votre condamnation. Ainsi les paroles de Christ se trouvent vraies et accomplies parmi vous. Vous qui haïssez cette lumière, vous établissez des mercenaires et des temples d'idoles, et de tels prêtres qui dominent par leurs charges, de tels bergers qui soutiennent de telles choses, ce qu'on appelle maîtres par les hommes et qui ont la première place dans les assemblées, contre lesquels Christ a prononcé malheur, Matthieu 23, ceux qui vont dans la voie de Caïn dans l'envie, et après l'erreur de Balaam pour salaire, don et récompense. Ce sont là vos maîtres, et ce sont eux que vous avez soutenus. Mais ceux qui aiment la lumière sont enseignés de Dieu, et le Seigneur vient pour enseigner lui-même son peuple et pour rassembler ceux qui sont à lui hors de ceux qui enseignent pour de l'argent, hors de ceux qui cherchent le gain de leur position, et hors de ceux qui maintiennent l'autorité par leurs moyens. Le Seigneur ouvre les yeux du peuple insensé, afin qu'il voie qui domine sur lui. Mais tous ceux dont les yeux sont fermés sont tels que le prophète a parlé d'eux, qui ont des yeux et ne voient pas, mais sont insensés soutenant de telles choses. C'est pourquoi, pauvres gens, comme vous aimez vos propres âmes, considérez l'amour de Dieu pour vos âmes tant que vous avez du temps, et ne changez pas la grâce de Dieu en licence de péché. Ce qui vous montre l'impiété et les convoitises mondaines devrait et serait votre maître, si vous y prêtiez attention, car les saints d'autrefois ont attesté que la grâce de Dieu était leur maître, qui leur apprenait à vivre sobrement et pieusement dans le siècle présent. Et vous qui n'êtes pas sobre, cette grâce de Dieu vous est apparue, mais vous en faites une licence de péché, et ainsi vous établissez au dehors des maîtres, qui ne sont ni sobres, ni saints, ni pieux. Ici vous êtes donc sans excuse, lorsque le juste jugement de Dieu sera révélé sur tous ceux qui vivent dans l'impiété. C'est pourquoi je parle à la lumière en vous, et quand le livre de la conscience viendra à être ouvert, alors vous verrez que ce que je dis est vrai, et vous serez tous jugés par cela. Que Dieu Tout-Puissant dirige donc vos esprits, vous surtout qui aimez l'honnêteté et la sincérité, afin que vous receviez miséricorde au temps du besoin. Votre maître est au-dedans de vous, ne le cherchez pas au dehors, il vous enseignera, tant lorsque vous êtes couché dans vos lits que lorsque vous sortez, à fuir toute occasion de péché et de mal. George Fox, puisque ce qui précède s'adressait à tous les habitants d'Ulverstone en général, il m'incombait aussi d'écrire plus particulièrement à ceux qui suivaient le plus constamment W. Lampit, le prêtre de ce lieu. Je leur écrivis ainsi, « Ceci est la parole du Seigneur Dieu à tout le peuple qui suit le prêtre Lampit, qui est un guide aveugle, vous vous êtes détourné de la lumière de Christ au-dedans de vous, dont il vous a éclairé. Vous êtes ceux qui ont suivi ce contre quoi Christ a prononcé malheur, ceux qui ne vont pas dans la voie de Christ, mais dans celle des pharisiens, comme vous pouvez le lire en Matthieu 23, contre laquelle notre Seigneur a prononcé malheur. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais, mais vous ne le reconnaissez pas, tandis que vous suivez ceux contre lesquels il a prononcé malheur, bien que vous ayez une apparence de foi, et Lampit, votre prêtre, trafique des paroles de Christ et des saints, comme ses pères les pharisiens, faisaient profession des paroles des prophètes et de Moïse. Malheur à ceux qui n'avaient pas la vie, ainsi malheur à vous qui n'avez pas la vie qui a produit les Écritures, comme vos fruits l'ont manifesté. Car lorsque le Seigneur en a poussé certains à venir parmi vous pour prêcher gratuitement la vérité, vous les avez renversés, battus, frappés et traînés hors de vos assemblées. Tel est le peuple que tu as, ô Lampit, sur lequel faire une proie, et tels sont tes fruits. Oh, que la honte vous frappe au visage, toi et vous tous qui faites profession des paroles de Christ, et pourtant êtes des lapideurs, frappeurs, moqueurs et railleurs, que tous voient si ce n'est pas une cage d'oiseaux impurs, dont parlaient ceux qui avaient la vie des Écritures. Une telle compagnie de gens tu trompes, tu les nourris de tes fantaisies, tu fais commerce des Écritures et tu les prends pour ton manteau. Mais tu es manifeste à tous les enfants de lumière, car ce manteau ne te couvrira pas, tes pans se voient, et ta nudité apparaît. Le Seigneur en a fait un marché nu parmi vous, figure de votre nudité individuelle et de votre nudité collective, et comme un signe parmi vous avant que votre destruction ne vienne, afin que vous voyiez que vous êtes nus et non couverts de la vérité. Je parle à la lumière dans toutes vos consciences, dont Christ Jésus vous éclaire. Elle vous montrera le temps que vous avez dépensé et toutes les mauvaises actions que vous avez faites pendant ce temps, vous qui suivez un tel maître, qui agit contrairement à cette lumière et vous conduit dans le fossé. Quand vous serez dans le fossé ensemble, maître et peuple, souvenez-vous qu'on vous a averti durant votre vie. Et si jamais votre œil en vient à voir la repentance et que vous reconnaissiez la lumière de Jésus-Christ en vous, vous attesterez que j'ai été un ami de vos âmes, que j'ai cherché votre bien éternel et que je vous ai écrit ceci dans un cher amour. Alors vous reconnaîtrez votre condamnation, que vous devez tous reconnaître avant de pouvoir entrer dans le monde nouveau qui n'a pas de fin. Mais vous qui haïssez la lumière, dont les œuvres sont mauvaises, cette lumière est votre condamnation, et le sera, et lorsque votre condamnation viendra sur vous, souvenez-vous qu'on vous a averti. Oh, si vous vouliez aimer cette lumière et l'écouter! Elle vous enseignerait, tandis que vous allez et venez à vos affaires, et lorsque vous êtes couchés sur vos lits, et elle ne vous laisserait jamais dire une parole vaine. En l'aimant, vous aimez Christ, en la haïssant, vous attirez sur vous sa condamnation. Pour vous, ceci est la parole de Dieu, sous laquelle vous ne pourrez jamais passer, ni jamais échapper à la terreur du Seigneur dans l'état où vous êtes, vous qui haïssez la lumière. George Fox. La lettre suivante fut manifestement écrite à l'un des nombreux prêtres qui s'opposaient à Fox, celui-ci étant particulièrement mauvais. « Ami, je parle à ce qui est dans ta conscience, qui te fera voir que tu vis comme un porc, hors de la crainte du Dieu vivant, et que tu ne le connais pas. Tu n'échapperas jamais à la terreur du Seigneur, car elle te poursuivra toujours, même lorsque tu seras dans ton lit. La main du Seigneur est contre toi, et pour toi ceci est la parole du Seigneur Dieu, toi qui te rengorges dans ta méchanceté et enfles dans ta vanité, tirant ta langue comme une bête ou un chien, comme tu te montres tel que tu es, toi qui juges les saints d'être des vagabonds. D'un tel arbre que toi, nous n'attendons pas d'autres fruits, mais par le jugement éternel de Dieu, tu es jugé éternellement comme une bête mauvaise. Fais donc taire ta bouche à jamais, toi qui fais profession de Dieu et de Christ. Je parle à ce qui est dans ta conscience, toi qui es un homme profane. Tu es un chasseur rusé, comme ton père Ésaü l'était, qui méprisa son droit d'aînesse, comme toi aussi tu le méprises. Considère donc sa fin, car ta fin et ta voix sont les siennes, dans la voie où tu vas. Il chercha le rétablissement avec des larmes, et il n'y eut pas de place pour la repentance, comme tu peux le lire dans les Hébreux. Je parle à la lumière dans ta conscience, qui me rendra témoignage éternellement. Quand tu seras dans la terreur et le tourment, souviens-toi que je t'ai averti, dans l'amour pour ton âme et durant ta vie. Quand tu seras dans le feu avec ton père d'Yves, souviens-toi que maintenant tu te vantes. Je te saisis. Je parle à ce qui est dans ta conscience, qui me rendra témoignage et témoignera contre toi, toi qui es pour le jugement et la condamnation. George Fox. Parmi les principaux auditeurs et partisans du prêtre Lampitt se trouvait un certain Adam Sand, un homme très méchant et faux, qui aurait détruit la vérité et ses disciples s'il l'avait pu. À lui, je fus poussé à écrire en ces termes, « Adam Sand, j'en appelle à la lumière de ta conscience, toi enfant du diable, ennemi de la justice, le Seigneur te frappera bien que, pour un temps, tu puisses régner dans ta méchanceté. Les fléaux de Dieu te sont dus, à toi qui t'endurcis dans la méchanceté contre la pure vérité de Dieu. Par la pure vérité de Dieu, que tu as combattu et persécuté, tu dois être abattu, et cela est éternel et te comprend. Et par la lumière que tu méprises, tu es vu, et c'est ta condamnation. Toi comme une brute, ta femme comme une hypocrite, et vous deux comme meurtriers des justes, vous êtes vus et compris dans ce qui est éternel, et ton cœur est sondé, éprouvé et condamné par la lumière. La lumière dans ta conscience te rendra témoignage de la vérité et te fera voir que tu n'es pas né de Dieu, mais que tu es hors de la vérité, dans la nature bestiale. Si jamais ton œil voit la repentance, tu me reconnaîtras comme un ami de ton âme et un chercheur de ton bien éternel. George Fox. Cet Adam Sand mourut ensuite misérablement. Je fus aussi poussé à écrire au prêtre Tassem. La parole du Seigneur pour toi, prêtre Tassem, qui est trouvé hors de la doctrine du Christ, occupant la place la plus élevée dans l'assemblée, étant appelé par les hommes maîtres, et te tenant debout pour prier dans la synagogue, sur les traces des pharisiens, contre lesquels notre Seigneur Jésus-Christ a prononcé malheur. Tu n'es pas dans sa voie, mais dans la voie des scribes et des pharisiens, comme tu peux le lire, Matt 23. Là, les paroles du Christ te jugent et les Écritures de vérité te condamnent. Car tu es de ceux qui intentent des procès aux hommes pour les dîmes, tout en te déclarant ministre du Christ, ce que le Christ n'a jamais autorisé les siens à faire, ni aucun de ses apôtres ou ministres n'a jamais agi ainsi. Ici, je t'accuse, en présence du Dieu vivant, d'être hors de leur doctrine et d'être l'une de ces bêtes mauvaises dont parle l'Écriture, qui s'attachent aux choses terrestres, ce contre quoi la vie des Écritures s'élève. Tu es voué à la destruction dans l'état où tu te tiens, et ce sera ta part pour l'éternité si tu ne te repens pas. Je m'adresse à ce qui est de Dieu dans ta conscience qui témoignera de la vérité de ce que je dis. Tu es de ceux qui vont dans la voie de Caïn, dans l'envie, ennemi de Dieu et loin du commandement de Dieu. Tu es de ceux qui vont dans la voie de Balaam, loin de l'Esprit de Dieu, pour des dons et des récompenses, le salaire de l'injustice. Toi, fils de Balaam, tu es pire que ton père, car bien qu'il aimât le salaire de l'injustice, il n'osa pas le prendre, mais toi non seulement tu le prends, mais tu poursuis les hommes en justice s'ils ne te le donnent pas, ce qu'aucun véritable ministre de Jésus-Christ n'a jamais fait. C'est pourquoi ferme ta bouche pour toujours, et ne fais plus mention d'eux, ni ne te professe l'un d'eux. Par la lumière, tu es vu et compris, toi qui es léger et vain, et qui profères une divination sortie de ton propre cerveau, et qui trompe le peuple. Ce qui est dans ta conscience témoignera de ce que je dis et te condamnera. Toi qui es de ceux qui gouvernent par leur charge, contre quoi le Seigneur envoya Jérémie crier, Jer 5, 31, et ainsi tu soutiens la chose horrible et immonde qui se commet dans le pays. Et ceux qui ne tremblent pas à la parole du Seigneur sont le peuple insensé qui te soutient, ce sont des enfants stupides sans intelligence. Ceux que tu trompes sont habiles à faire le mal, mais non à faire le bien. Tu es de ceux qui cherchent leur gain dans leur position. Ta pratique montre un chien muet et glouton qui n'en a jamais assez, comme ceux contre lesquels le Seigneur envoya Ésaïe crier. Isa 56-11. Et tu es semblable à ceux contre lesquels le Seigneur envoya Ézéchiel crier, qui se nourrissent de la graisse, se vêtent de la laine et font du peuple leur proie. Mais le Seigneur rassemble ses brebis hors de ta bouche, afin qu'elles ne soient plus désormais ta proie. La prophétie d'Ésaïe 34 s'accomplit par toi, l'un des ennemis de Dieu. Je fais retomber sur toi les accusations de la prophétie, en présence du Dieu vivant. Tu es un mercenaire, et tu prépares la guerre contre ceux qui ne te nourrissent pas. Tu lis le bien et tu aimes le mal, contre quoi le Seigneur envoya Michée crier, Michée 3. Couvre tes lèvres, et ferme ta bouche pour toujours, toi enfant des ténèbres, car par la lumière tu es compris, et tu es vu parmi ceux contre qui les hommes saints de Dieu ont crié malheur, et tu es jugé par l'Esprit du Dieu vivant. Tu es compris dans la lumière qui est ta condamnation. Toi qui es hors des commandements du Christ et hors de la doctrine et de la vie des apôtres, ta lignée spirituelle est vue, et tes limites sont connues. Tu es éprouvé et mis à l'épreuve. Pour toi, ceci est la parole du Seigneur. Pour toi, elle sera comme un marteau, un feu et une épée, et tu n'en sortiras jamais à moins que tu ne te repentes, toi qui, dans l'état où tu te tiens, es à être condamné par la lumière. Et si jamais ton œil voit la repentance, cette condamnation, tu devras l'admettre. George Fox, la parole du Dieu vivant, à tous les peuples dispersés au loin, je parle à la lumière qui est dans toutes vos consciences par laquelle vous êtes éclairés. Christ Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde, et la lumière éclaire tout homme venant dans le monde. » Si vous aimez la lumière, qui vient du Christ, et marchez dans la lumière, par la lumière vous verrez le Christ, car c'est de là que vient la lumière. Mais si vous haïssez la lumière, qui montre que vous avez fait le mal et vous montre vos mauvaises œuvres, mensonges, jurons, malédictions, tromperies, combats, crêles, débauches, ivrognerie, poursuite des plaisirs selon la voie du monde, moqueries, insultes et médisances, toutes ces œuvres de la chair seront montrées comme péché et mal par la lumière. Ainsi par la lumière, qui vient du Christ, vous qui faites ces mots serez condamnés. Si vous l'aimez et marchez en elle, vous aurez la lumière de la vie et viendrez entendre la parole, qui s'est faite chair, et viendrez entendre le prophète dont Moïse a parlé, qui dit dans Actes 7, « Dieu suscitera pour vous un prophète comme moi, c'est lui que vous écouterez. » Quand ce prophète vint, une voix vint du ciel et dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Dieu, qui à diverses reprises et de diverses manières, a autrefois parlé au Père par les prophètes, nous a parlé en ces jours-ci par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par qui aussi il a fait le monde, Mais vous qui haïssez cette lumière dont le Christ vous a éclairé, vous n'écoutez pas le Fils bien-aimé de Dieu. Au lieu de cela, vous êtes comme ceux contre qui le Christ a crié malheur, qui sont sur les traces des pharisiens, lisez Matthieu 23, dans les premiers sièges des assemblées, se tenant debout pour prier dans les synagogues, et appelé par les hommes maîtres sur les traces des pharisiens et dans leurs sièges, hors des commandements du Christ, et donc non ses ministres. Vous suivez ceux qui cherchent leur gain dans leur position, des chiens muets et gloutons qui n'en ont jamais assez, Isa 56, et ceux qui dominent par leur statut, et qui soutiennent la chose horrible et immonde dans le pays. Ôtez-leur leur statut, et ils ne vous domineront pas par leur position. Vous suivez ceux qui sont des mercenaires, et ils vous prêchent la paix, mais si vous ne mettez pas de nourriture dans leur bouche, ils prépareront la guerre contre vous, comme vous pouvez le lire dans Michée 3. Ceux-là sont comme ceux contre qui le Seigneur envoya Michée crier, et ce sont des enfants insensés, un peuple stupide, habile à faire le mal, mais sans intelligence pour faire le bien, comme vous pouvez le lire dans Jérémie 4. Ils cherchent la toison et vous dévorent, des gens comme ceux contre lesquels le Seigneur envoya Ézéchiel crier, Ès 34. Mais, dit le Seigneur, je rassemblerai mes brebis hors de leur bouche, elles ne seront plus leur proie. Ici, avec les saints hommes de Dieu, vous êtes jugés parmi ceux contre lesquels ces saints hommes ont crié. Par la lumière, vous êtes tous vus, vous qui soutenez de tels hommes mentionnés ci-dessus, et que les hommes appellent ministres du Christ, lesquels se trouvent être parmi ceux contre qui les saints hommes de Dieu ont crié malheur. Par la lumière, vous êtes tous vus, et par la lumière, ils sont tous condamnés. Couvrez donc vos lèvres et fermez vos bouches de honte, pour avoir toujours dit que ces hommes sont les ministres du Christ, c'est le même genre de gens contre lesquels le Seigneur envoya ses prophètes crier. Par son Fils et par les Écritures, ils sont tous éprouvés et vus, et vous aussi qui les soutenez, ceux qui reçoivent des dons et des récompenses, le salaire de l'injustice, contre quoi le Seigneur envoya ses saints apôtres crier, ceux qui, par cupidité et par des paroles feintes, ont fait de vous une marchandise, écoutez. Par la lumière et la vie des Écritures, vous êtes vus et condamnés par la lumière, vous qui haïssez la lumière, et agissez à l'encontre de la lumière, tout en professant que les Écritures sont votre règle. Par la lumière, ils sont tous vus comme étrangers à la vie de Dieu, étant parmi ceux contre qui les saints apôtres et prophètes ont crié. Vous qui suivez de tels hommes, vous êtes comme les femmes légères qu'on mène captives, jamais capables de parvenir à la connaissance de la vérité, certaines apprenant encore 20, 30, 40, même 60 ans ou plus, toujours apprenant, mais jamais capable de parvenir à la connaissance de la vérité, comme vous pouvez le lire dans Timothée, Pierre et Jude. Vous qui suivez de tels gens, vous n'écoutez pas le Fils de Dieu. Ici, par la lumière, vous êtes tous vus dans la lumière, à soutenir et suivre ceux qui haïssent la lumière, ces gens que, de tout temps, on a dénoncés et condamnés par la lumière. Voici la condamnation par la lumière de toutes ces mauvaises œuvres mentionnées plus haut, qui sont faites dans la nature contraire à la lumière. Pour vous, ceci est la parole éternelle de Dieu, et voici votre maître. En l'aimant, la lumière, qui vient du Christ et ne change jamais, vous montre vos mauvaises œuvres, en tous vos jours et temps passés, et toutes vos actions faites à l'encontre de la lumière, qui ne change jamais. Par la lumière, tous sont vus et condamnés, cette lumière ne changeant jamais. Je parle à la lumière en vous, afin qu'avec elle vous puissiez voir le Christ et venir témoigner du sacerdoce immuable, et renier le sacerdoce qui prend les dîmes, comme l'ont fait les saints qui ont témoigné de lui, comme vous pouvez le lire en Hébreux 7. Ainsi tous ceux qui demeurent dans la lumière, qui vient du prêtre immuable, cette lumière voit, confesse et renie le prêtre changeant comme l'ont fait les apôtres, qui ont dit que le prêtre changeant est changé, de même que la loi est changée, comme vous pouvez le lire en Hébreux 7. Ainsi vous qui soutenez le sacerdoce changeant qui prend les dîmes, et vous qui prenez les dîmes, vous êtes détournés de la lumière, qui vient du prêtre immuable, Christ Jésus. Christ Jésus n'est pas votre voie, si vous êtes détournés de la lumière, qui vient du prêtre immuable. Vous êtes plutôt tourné vers le changeable. Judas est votre voie vers la perdition, et vous êtes condamné par la lumière, qui vient de l'immuable. Je parle à la lumière, qui vient du Christ en vous tous, afin que vous voyiez dans quelle voie vous marchez. Je suis un ami de vos âmes et de votre bien éternel, voici le jour de votre visitation et de votre salut. Maintenant, pendant que vous en avez le temps, estimez-le. Si vous aimez la lumière, qui vient du Christ, voici votre voie de salut. Si vous la haïssez, voici votre voie de destruction. Et vous qui la haïssez, vous haïssez le Christ d'où elle vient. George Fox a un ami convaincu, mais non purifié, bien que tu sois un ami de la vérité, pourtant ton esprit s'éloigne de la vérité et demeure fort dans la chair et la tromperie. Tu vis dans la convoitise qui obscurcit ton entendement, et en cela tu es hors de la crainte du Seigneur, et tu n'es pas dans sa crainte, mais la puissance des ténèbres, qui est le prince de l'air, est forte dans les nombreuses forteresses. Si tu attends Dieu dans ce qui est pur en toi, tu trouveras et verras, car Dieu t'a donné une mesure de son esprit. Par laquelle tu peux comprendre les choses et voir les tromperies. Or, quand l'esprit s'éloigne de cette mesure pure, qui te fait voir les tromperies, la simplicité se trouve prise au piège, et Dieu n'est plus dans tes pensées, au contraire, le Fils de perdition en toi siège dans le temple de Dieu, où il ne doit pas siéger. Par la naissance du Seigneur en toi, ce Fils de perdition est découvert, et par l'éclat de la venue du Seigneur en toi, il est consumé, afin que cet homme de péché soit révélé en toi, et ainsi tu verras les Écritures accomplies. Mais tu dois attendre dans ce qui est pur, qui te montrera quand ton esprit s'écarte vers la désobéissance, en établissant les prêtres de Baal au dehors devant Dieu, et cela apporte une distraction dans l'esprit, où il y a un boitement entre deux, toi et Dieu, car tous les troubles sont au dehors dans le monde, mais le Christ a dit que, en moi vous aurez une paix parfaite. Attends en Christ, et sois attentif à lui en toi-même. Car c'est là que tu attends son apparition, garde ton attention vers l'intérieur, demeure en cherchant Christ au-dedans de toi-même, et ne suis pas l'écrit « Voici, le Christ est ici, et voici, le Christ est là » pour te distraire vers une recherche extérieure, et tu auras la paix en peu de temps. Plus tard, tu témoigneras voir, expérimenter le Christ, qui est la substance des prophètes et des apôtres. Les Écritures te sont montrées au-dedans de toi, par le Christ, pour te guider vers le Père, le Seigneur Dieu du ciel et de la terre. En attendant que l'Esprit du Seigneur en toi tout guide ton esprit, tu trouveras ta force renouvelée chaque jour par l'unique Esprit qui a produit les Écritures. Il n'y a pas de confusion, mais au contraire une paix parfaite. Cet Esprit baptise dans l'unique corps, et cet Esprit est l'unité des saints qui, bien qu'absents de corps, sont présents en esprit, étant tous abreuvés d'un même esprit. Cet Esprit circoncis et te dépouille du corps du péché. Et tu es sanctifié par ton obéissance à l'Esprit. Tu viendras à voir les Écritures pures et claires, telles qu'elles sont, sans aucun mélange d'interprétation humaine, comme les hommes saints les possédaient et les ont publiées. Ainsi les hommes saints les possèdent et les publient de nouveau, et en témoignent de nouveau. Oh, ne lis pas ces choses au dehors, lis-les plutôt au dedans, ne les regarde pas comme dures, mais fixe ton attention sur l'amour de Dieu pour toi, en ce qu'il te montre ton état. Car toutes les Écritures ont été produites d'un principe intérieur, selon que le Seigneur Dieu de puissance bénit et dirige, il y a une bénédiction si tu es fidèle et attends. George Fox, ce qui suit, est une lettre écrite au chef du Parlement et au général de l'armée. Cromwell était le général de l'armée parlementaire qui remporta la guerre civile, déposant le roi Charlier. Cromwell prit plus tard le titre de Lord Protecteur, par George Fox en 1652. Au chef et au général de ce pays, afin que vous demeuriez dans le conseil de Dieu, et que vous soyez dirigés par sa sagesse, qui ordonne toutes choses, car par elle toutes choses ont été faites. Si vous faites une loi selon vos propres volontés, qui viole les consciences des hommes, Dieu vous renversera, vous et vos lois. Car ce qui exerce la conscience, c'est la pure lumière de Dieu, qui conduit à Dieu en sortant de toute souillure, corruption et impureté, et la loi de Dieu s'en saisit contre quiconque est contraire à une conscience pure. Que toute âme soit soumise aux puissances supérieures, car toutes les puissances viennent de Dieu, à cause de la conscience. Or, si l'on fait une loi qui viole la conscience qui est pure, cette loi est contre Dieu, et beaucoup ont souffert pour avoir gardé leur conscience nette. Comme Dieu a donné à chacun une lumière et une mesure d'esprit pour le bien de tous, chacun doit être attentif à ce qui est de Dieu en vous, pour vous enseigner comment marcher vers Dieu et devant lui. Comme cela vous enseigne et éclaire votre entendement, cela vous enseignera comment diriger les autres et comment juger des choses éternelles, pourvu que l'éternel soit maintenu dans votre entendement. Comme chacun a une mesure, chacun doit donc faire fructifier son talent et ne pas limiter Dieu aux hommes instruits, comme cela a longtemps été le cas, qui n'ont appris que par les langues naturelles. Ainsi, la religion de ces hommes instruits est fondée sur l'extérieur, leurs paroles et leurs lumières sont extérieures, et leurs dons de prédication sont des dons extérieurs, et ils viennent à vous, magistrats, pour que vous les souteniez dans leur ministère extérieur, car votre loi modifie et change l'extérieur. Or, ce qui est extérieur ne peut servir à juger les choses éternelles sans limiter Dieu, car celui qui a le premier don de Dieu a ce qui est parfait, et ce qui est parfait est éternel, et de tels hommes ont le discernement pour distinguer le don de Dieu du don de l'homme. Quiconque est envoyé prêcher l'évangile éternel possède ce qui est éternel, qui peut discerner l'évangile éternel de simples paroles. La promesse était que la semence de la femme écraserait la tête du serpent. Vous qui pouvez voir en vous-même la tête du serpent écrasée, et la semence de la femme en vous, dont la tête est Christ, vous voyez la promesse de Dieu accomplie, qui est la bonne nouvelle pour votre âme. Votre âme sort de la mort et entend Christ Jésus révélé au-dedans de vous-même. Ce ministère n'est pas de l'homme, ni par l'homme, mais par la volonté de Dieu, que la volonté de l'homme ne connaît pas, car l'homme naturel ne connaît rien des choses de Dieu. Or, tout homme, dans sa première naissance et son premier état, peut se voir naturel et incapable de juger les choses de Dieu. Mais l'homme spirituel juge de toutes choses, oui, des choses profondes de Dieu, et c'est le second homme. C'est pourquoi, amis et compagnons de création, gardez-vous de juger avec de mauvaises pensées. C'est la part charnelle au-dedans, qui est hors de la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, laquelle doit être sans considération ni préférence de personne. C'est pourquoi, comme Dieu vous a donné une mesure de lumière au-dedans de vous-même, que cela guide vos esprits et vous garde dans la crainte du Seigneur. Si vous aimez la lumière et marchez en elle, vous aimez le Christ et il n'y a aucune occasion de chute. Si vous haïssez la lumière, alors vous trébuchez en plein midi, et là est votre condamnation. Aimez cette lumière, et amenez vos œuvres à cette lumière, dans la mesure où cette lumière vous a jugé dans le particulier, dans cette même mesure elle peut vous juger dans le général, car le juge n'est qu'un. Attendez dans la lumière, qui vous garde dans la crainte du Seigneur, attendant d'être rendu participant de la foi précieuse, car le mystère de la foi est gardé dans une conscience pure. Marchez dans cette lumière éclaire vos consciences et vos entendements, en y marchant, vous avez communion les uns avec les autres, car la lumière n'est qu'une, qui découvrira toute lumière imaginée, faux culte, voies et églises. Elle vous élèvera jusqu'à l'Église en Dieu, la source de la lumière. L'or celle de l'Église foi n'est qu'une, qui purifie le cœur et qui se tient en Dieu, mystère tenu dans une conscience pure. Tous ceux qui sont dans l'unique foi sont un, fussent-ils 10 000, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous dirige, afin que vous sachiez attendre en lui, marcher devant lui, être humble et demeurer dans le conseil de Dieu, afin que tout ce que vous ferez puisse prospérer. Si vous sortez du conseil de Dieu, vous entrez dans l'orgueil, l'arrogance, l'oppression, et le fait d'écraser le visage du pauvre. Maintenant, soyez attentifs à être guidés par ce qui est pur. C'est une croix pour la part charnelle qui opprime le pur, surtout si la nature charnelle n'est pas croisée reniée, car de la nature charnelle s'élève l'orgueil. Si le pur esprit du Seigneur est votre chef et votre guide, et s'il n'y a pas d'oppression au-dedans, il n'y en a pas au-dehors, car malheur à celui qui est couvert dirigé, mais non par l'esprit du Seigneur. C'est pourquoi soyez tous attentifs à ce par quoi vous êtes couvert dirigé. George Fox, j'écrivis aussi à Burton, le prêtre de Sedberg, à peu près dans le même sens, parce qu'il était dans le même mauvais terrain, la même nature et la même pratique que les autres prêtres. Comme le Seigneur me poussa, j'écrivis vers ce temps-là bien d'autres épîtres et papiers que j'envoyais parmi les prêtres, les professants et les gens de toutes sortes. Mon but était d'exposer leurs mauvaises voies afin qu'ils puissent les voir et les abandonner, et d'ouvrir la voie de la vérité afin qu'ils puissent venir y marcher. Il y en a trop, et ils sont trop longs, pour être insérés ici. Après avoir déchargé ma conscience auprès des prêtres et du peuple près de Swarthmore, je retournai dans le Westmoreland. Une troupe d'hommes avec des piques et des bâtons m'attendait à un pont sur la route, ils rencontrèrent quelques amis, mais me manquèrent. Ensuite ils vinrent à la réunion avec leurs piques et leurs bâtons, mais le juge de Pébanson étant là, et beaucoup d'autres personnes considérables, ils furent empêchés de faire le mal qu'ils avaient l'intention de faire. Ils s'en allèrent donc dans une grande rage, sans faire de mal à personne. Je partis de la réunion pour Grayrigg et tins une réunion chez Alexander Dixon. Un prêtre d'une chapelle baptiste vint à la réunion pour s'opposer à nous, mais le Seigneur le confondit par sa puissance. Quelques personnes renversèrent des seaux à lait qui se trouvaient sur le côté de la maison, qui étaient très bondés, ce qui servit de prétexte au prêtre pour lancer une calomnie. Après que lui et sa compagnie furent partis, il prétendit que le diable l'avait effrayé et avait emporté un côté de la maison pendant qu'il était à la réunion. Bien que cela fût un mensonge connu, cela servit aux prêtres et aux professants de nourriture pendant quelque temps, et ils furent si effrontés qu'ils l'imprimèrent et le publièrent. Une autre fois, ce prêtre vint à une réunion et se mit à disputer doctrinalement sur des mots. D'abord, il dit, « Les Écritures sont la parole de Dieu. » Je lui dis quelles étaient les paroles de Dieu, mais non Christ, la parole, et je lui dis de prouver ce qu'il avançait par l'Écriture. Alors il dit que ce n'était pas l'Écriture qui était la parole, et posant son pied sur la Bible, il dit que ce n'était que des copies reliées ensemble. Beaucoup de paroles malséantes sortirent de sa bouche, mais après son départ, nous eûmes une réunion bénie, la puissance et la présence du Seigneur furent précieusement manifestées et ressenties parmi nous. Peu après, il me mit au défi de le rencontrer à Kendall. Je lui fis dire qu'il n'avait pas besoin d'aller aussi loin que Kendall, car je le rencontrerais dans sa propre paroisse. Après accord sur l'heure, nous nous rencontrâmes, et un grand nombre de gens grossiers se rassembla, outre les baptisés qui étaient ses propres membres, avec l'intention de faire du mal, mais Dieu les en empêcha. Je leur annonçai le jour du Seigneur et les dirigeai vers Christ Jésus. Alors le prêtre sortit sa Bible et dit que c'était la parole de Dieu. Je lui dis que c'était les paroles de Dieu, mais non Dieu la parole. Il répondit qu'il prouverait devant tout le peuple que les Écritures étaient la parole. Je le laissai continuer, ayant là un homme qui pouvait consigner par écrit ce que lui et moi disions. Lorsqu'il ne put le prouver, car je l'obligeai à apporter la preuve par l'Écriture, chapitre et verset, le peuple grinça des dents de colère, et il dit qu'il me le montrerait plus tard. Mais en essayant de prouver cette assertion erronée, il fit beaucoup d'autres erreurs. Et quand enfin il vit qu'il ne pouvait pas le prouver, il dit qu'il prouverait que c'était un dieu. Alors il recommença jusqu'à transpirer de nouveau, mais il ne put prouver ce qu'il avait affirmé. Lui et sa compagnie étaient remplis de colère, car je le maintins, lui et tous les autres, conscients de ses affirmations, et je leur dis que je reconnaissais ce que les Écritures disaient d'elles-mêmes, à savoir quelles étaient les paroles de Dieu, mais que Christ était la parole. Ainsi la puissance du Seigneur vint sur tous, et ils s'en allèrent, couverts de honte et réduits au silence. Le Seigneur déjoua leurs intentions malveillantes contre moi, les amis furent affermis en Christ, et beaucoup des partisans du prêtre virent la folie de leur maître. Après cela, le prêtre Bénet de Carmel m'envoya un défi pour disputer avec moi. Je vins à sa maison à clocher un premier jour et le trouvai en train de prêcher. Quand il eut fini, je lui parlai, à lui et à son peuple, cependant le prêtre ne put supporter la critique et s'en alla. Après son départ, j'eus beaucoup de discussions avec le peuple, et quand je sortis dans la cour de la maison à clocher, discutant encore avec les professants et leur déclarant la vérité, l'un d'eux mit son pied derrière moi, et deux d'entre eux coururent et me poussèrent contre la poitrine, ce qui me fit tomber en arrière contre une pierre tombale, cherchant méchamment et malicieusement à me blesser, mais je me relevai, et je fus poussé par le Seigneur à leur parler. Puis j'allai à la maison du prêtre et lui demandai de sortir afin que je puisse m'entretenir avec lui, puisqu'il m'avait défié, mais il ne parut jamais. Ainsi la puissance du Seigneur vint sur eux tous, et se manifesta grandement en ce temps-là. Il y avait parmi la congrégation du prêtre un certain Richard Ropé, l'un des professants les plus amés qu'il eut, très féroce et ardent dans sa contestation. Mais ensuite il fut convaincu de la vérité éternelle de Dieu, devint ministre de cette vérité éternelle, et demeura fidèle jusqu'à sa mort. Vers le début de l'année 1653, je retournai à Swarthmore et allant à une réunion à Gleaston, un professant me défia de disputer. J'allai à la maison où il se trouvait et l'appelai à sortir, mais la puissance du Seigneur était sur lui, de sorte qu'il n'intervint pas. Je partis de là visiter les réunions des amis dans le Lancashire, et revins à Swarthmore. J'eus de grandes ouvertures du Seigneur, non seulement sur des choses divines et spirituelles, mais aussi sur des choses extérieures relatives au gouvernement civil. Un jour, étant à Swarthmore Hall, alors que le juge Fell et le juge de Pebanson parlaient des nouvelles, dans le Newsbook et du Parlement qui siégeait alors appelé le Long Parlement, je fus poussé à leur dire qu'avant 2 semaines, à compter de ce jour-là, le Parlement serait dissous et le président arraché de son siège. Et 2 semaines jour pour jour, Benson revenant là, dit au juge Fell qu'à présent il voyait que George était un vrai prophète, car Olive avait dissous le Parlement. À cette époque, je jeûnais environ 10 jours, mon esprit étant fortement travaillé en faveur de la vérité, car James Milnet et Richard Mier nous avaient quittés sur la base d'imagination et une troupe les avait suivis. Ce James Milnet et quelques-uns de sa compagnie avaient eu au début de véritables ouvertures, mais s'élevant dans l'orgueil et l'exaltation d'esprit, ils se sont éloignés de la vérité. Je fus envoyé vers eux, et je fus poussé par le Seigneur à aller leur montrer leurs égarements, et ils furent amenés à voir leur folie, la condamnèrent, et revinrent dans la voie de la vérité. Après quelque temps, j'allai à une réunion à Arnside, où se trouvait Richard Mier, qui avait depuis longtemps un bras infirme. Je fus poussé par le Seigneur à lui dire, au milieu de tout le peuple, « Prophète Mier, lève-toi sur tes jambes, car il était assis », et il se leva et tendit son bras qui avait été infirme depuis longtemps, et dit, « Que tous vous le sachiez, aujourd'hui je suis guéri ». Mais ses parents pouvaient à peine le croire, et après la fin de la réunion, ils le prirent à part, lui ôtèrent sa veste, et alors ils virent que c'était vrai. Peu après, il vint à la réunion de Swarthmore et déclara comment le Seigneur l'avait guéri. Pourtant, après cela, le Seigneur lui commanda d'aller à York avec un message de sa part, et il désobéit au Seigneur, et le Seigneur le frappa de nouveau, de sorte qu'il mourut environ 9 mois plus tard. Or, il venait de Cumberland de grandes menaces disant que, si jamais j'y revenais, il me tuerait. Quand je l'appris, je fus porté à aller en Cumberland, et je me rendis chez Mill Wennington, dans la même paroisse d'où venaient ces menaces, mais ils n'eurent pas alors le pouvoir de me toucher. À cette époque, Anthony Pearson fut convaincu, lui qui avait été un opposant des amis. Il vint à Swarthmore, et comme j'étais alors chez le colonel West, ils envoyèrent me chercher. Le colonel West dit, « Va, George, car cela peut être d'un grand service pour cet homme. » Alors j'y allai, et la puissance du Seigneur l'atteignit. Note d'intérêt, la lettre suivante, très intéressante, d'Anthony Pearson, a été trouvée dans la collection de Swarthmore, Elle est intitulée A Paper of Anthony Pearson et datée de Ramshaw près de West Auckland, le 9 mai 1653. Il ne paraît pas à qui elle était adressée, cher ami. J'ai longtemps professé servir et adorer le vrai Dieu, et comme je le pensais, plus que bien des sectes à avoir atteint un haut degré en religion, mais maintenant, hélas, je trouve que mon œuvre ne résistera pas au feu. Mes notions n'étaient que vanités enflées, sans puissance ni vie. Ce que signifiait aimer ses ennemis, bénir ceux qui maudissent, rendre le bien pour le mal, user du monde comme n'en usant pas, donner sa vie pour les frères, je ne l'ai jamais compris. Ce que voulait dire pureté et perfection, je ne l'ai jamais goûté. Toute ma religion n'était que l'ouïe de l'oreille. Le croire et parler d'un Dieu et d'un Christ au ciel ou en un lieu lointain, je ne savais où. Oh, combien le Seigneur a été bon envers moi en me conduisant chez le juge Fell, pour voir les merveilles de sa puissance et de sa sagesse, une famille marchant dans la crainte du Seigneur, conversant chaque jour avec lui, crucifiée au monde, et ne vivant que pour Dieu. J'en fus si confondu que tout mon savoir et ma sagesse devinrent folie, ma bouche fut fermée, ma conscience convaincue, et les secrets de mon cœur furent manifestés, et ce Seigneur fut découvert comme étant proche, lui que j'adorais dans mon ignorance. J'aurais pu parler du Christ dans les saints, l'espérance de la gloire, mais c'était pour moi une énigme. Et vraiment, cher ami, je dois vous dire que j'ai maintenant perdu toute ma religion, et je suis dans une telle détresse que je n'ai plus ni espoir ni fondement. Ma justification et mon assurance m'ont abandonné, et je suis comme un pauvre vaisseau brisé, ballotté de part et d'autre, sans pilote ni gouvernail, aussi aveugle, mort et impuissant que vous pouvez l'imaginer. Je n'ai jamais senti la corruption si forte, et la tentation si dominante, que maintenant, j'ai un cœur orgueilleux dur de pierre, qui ne peut prendre conscience de ma misère. Lorsque je considère profondément combien de temps précieux j'ai gaspillé, et combien j'ai vécu sans profit, mon esprit ressent une peur soudaine, mais alors je fuis encore vers mon ancien refuge, et là mes pensées se détournent. Ce que signifie attendre Dieu, je ne puis le saisir, et les confusions dans mon propre esprit, jointes aux tentations continuelles du dehors, sont si grandes que je ne puis comprendre ni percevoir la petite voix douce et tranquille du Seigneur. Ce que vous m'avez dit de George Fox, je l'ai trouvé vrai. Quand vous le verrez, lui ou James Nelly, ils connaissent tous deux mon état mieux que moi-même. Poussez-les si aucun des deux n'est attiré de ce côté-ci, à m'aider de leurs conseils par lettre. Ils sont pleins de pitié et de compassion, et bien que j'aie été leur ennemi, ils sont mes amis, et Francis Raugel l'est aussi, de qui j'ai reçu une lettre pleine de tendresse et de conseils salutaires. Oh, combien les visages de l'un quelconque d'entre eux me seraient bienvenus, vraiment, je crois que je pourrais mépriser le monde pour avoir communion avec eux. Mais je trouve que mon cœur est plein de tromperies, et je crains extrêmement d'être abusé, comme je l'ai été, et d'être séduit dans une forme sans puissance, dans une profession avant de posséder la vérité, ce qui multiplierait ma misère et me priverait à la fois de Dieu et du monde. Cher ami, il y a un messager qui vient de Candal à moins d'un mille de chez moi toutes les deux semaines, et il s'arrêtera chez Pete Huguin pour apporter toute lettre qui y serait laissée pour moi. Cela me rafraîchirait beaucoup de recevoir quelques lignes de vous, mais soyez fidèles. Vous pouvez percevoir, à mon langage d'Ashdod, quel campagnard je suis même de ce bas monde qui vit dans les ténèbres. Je crains que les ordres astérisques que nous avons pris à Appleby ne fassent souffrir certains, qui parlent par la bouche du Seigneur, astérisque astérisque je souhaite de tout cœur qu'ils soient supprimés ou rapportés. J'ai été chez le juge Fell, et j'ai été informé par l'épouse de cette âme précieuse Margaret Fell, dans une certaine mesure, de ce que signifient ces choses, que je considérais auparavant comme des débordements de cerveaux étourdis. Astérisque ordre donné par les magistrats concernant des peines d'emprisonnement de Quake à la prison d'Appleby. Astérisque astérisque ainsi, voici un ancien juge de paix, qui avait auparavant condamné des Quake à la prison, déclarant que les premiers Quakers, et pas seulement Fox, parlaient par la bouche du Seigneur. Cher cœur, ayez pitié et priez pour moi, et que toutes les obligations de notre ancienne amitié soient acquittées par des vœux bienveillants pour l'âme du vieil ami de la famille, afin qu'il puisse partager avec eux vos possessions célestes. Remarque, il parle de partager avec ce Quake ses possessions célestes. C'est une preuve que la mesure du Christ chez le Quake était manifeste à quiconque avait l'esprit ouvert, et Pearson souhaitait partager avec lui cette nature divine que le Quake lui avait révélée. Souvenez-vous, Pearson était un juge de session très conservateur et respecté, qui avait envoyé des Quakers en prison, et qui fut convaincu en jugeant des ministres Quakers, James Nelly, George Fox et Francis Raugel, pour blasphème, comme indiqué plus haut. Anthony Pearson Ramshaw, près de West Auckland, 5 mai 9-1653. À cette époque aussi, le Seigneur ouvrit plusieurs bouches pour déclarer la vérité aux prêtres et au peuple, et beaucoup furent jetés en prison. Je retournai en Cumberland, et Anthony Pearson et sa femme, ainsi que plusieurs amis, m'accompagnèrent jusqu'à Bootle, où Anthony me quitta et alla aux assises de Carlisle, car il était juge de paix dans trois comtés. Le premier jour, je me rendis dans l'église à Bootle, et lorsque le prêtre eut fini, je commençai à parler. Le peuple était extrêmement grossier, et me frappa dans la cour de l'église. L'un me porta un très grand coup sur le poignet, si bien que les gens pensèrent qu'il m'avait brisé la main en morceaux. Le constable était très disposé à maintenir la paix, et aurait mis au fer certains de ceux qui me frappaient, si je l'avais permis. Après que mon service parmi eux fut terminé, j'allai chez Joseph Nicholson, et le constable nous accompagna pour tenir à distance la foule grossière. L'après-midi, je remontai encore, et cette fois le prêtre s'était adjoint à notre prêtre, venu de Londres et tenu en haute estime pour l'aider. Avant d'entrer dans l'église, je m'assis un moment sur la croix, ainsi que les amis qui étaient avec moi, mais ils furent poussés à entrer dans l'église et j'entrai après eux. Le prêtre de Londres prêchait, il rassembla toutes les écritures auxquelles il pouvait penser, qui parlaient de faux prophètes, d'antéchrist et de séducteurs, et les lança contre nous. Quand il eut fini, je rassemblai toutes ces écritures et les lui appliquai en retour. Alors le peuple se jeta sur moi de façon brutale, mais le constable leur ordonna de garder la paix et les ramena au calme. Puis le prêtre se mit à s'emporter et dit que je ne devais pas parler là. Je lui dis qu'il avait son sablier, selon lequel il avait prêché, et puisqu'il avait fini, le temps était libre pour moi autant que pour lui, car lui-même n'était qu'un étranger en ce lieu. J'ouvris donc les Écritures devant eux et leur fis voir que ces Écritures, qui parlaient des faux prophètes, des antéchrists et des séducteurs, les décrivaient eux et leur génération, et appartenaient à ceux qu'on trouvait marchant sur leurs traces et produisant leurs fruits, et non à nous, qui n'étions pas coupables de telles choses. Je leur montrai qu'ils s'étaient écartés des pas des vrais prophètes et apôtres, et je leur démontrai clairement, par les fruits et les marques, que, et non nous, étaient de ceux dont parlaient ces Écritures. Et je déclarai au peuple la vérité et la parole de vie, et les dirigeai vers Christ leur Maître. Tout était calme pendant que je parlais, mais quand j'eus terminé et que je sortis, les prêtres étaient dans une telle agitation et une telle rage qu'ils écumaient de colère contre moi. Le prêtre du lieu fit une harangue au peuple dans la cour de l'église, disant « Cet homme a rallié à lui tous les honnêtes hommes et femmes du Lancashire, et maintenant il vient ici pour faire de même. » Alors je lui dis, « Que voulez-vous qu'il reste, et qu'on laisse les prêtres, sinon des gens comme eux-mêmes? Car si ceux qui reçoivent la vérité et se tournent vers Christ sont les honnêtes, alors ceux qui vous suivent, et qui vous ressemblent, doivent être les malhonnêtes. » Quelques-uns aussi des gens du prêtre commencèrent à plaider pour leurs prêtres et pour les dîmes. Je leur dis qu'il valait mieux plaider pour Christ, qui avait mis fin au sacerdoce fondé sur la dîme avec les dîmes, et avait envoyé ses ministres donner gratuitement, comme ils avaient reçu gratuitement. Ainsi la puissance du Seigneur vint, fit taire et retint le peuple grossier, si bien qu'il ne put faire le mal qu'il avait l'intention de commettre. Lorsque je redescendis chez Joseph Nicholson, je vis un grand trou dans mon manteau, qui avait été coupé au couteau, mais il n'avait pas traversé mon gilet, car le Seigneur avait empêché leur méfait. Le lendemain, il y eut un homme grossier et méchant qui aurait fait violence à un ami, mais la puissance du Seigneur l'arrêta. Alors je fus poussé à envoyer James Lancaster fixer une réunion dans l'église d'un certain John Wilkinson près de Cockermouth, un prédicateur très renommé, qui avait trois paroisses sous sa charge. C'est pourquoi je restai à Milholm, à Bootle, jusqu'à ce qu'il revienne. Entre-temps, quelques gentilshommes du pays avaient formé un complot contre moi et avaient donné à un petit garçon une rapière pour me faire du mal. Ils vinrent avec le garçon chez Joseph Nicholson pour me chercher, mais le Seigneur en avait ainsi disposé que j'étais parti dans les champs. Ils rencontrèrent James Lancaster, mais ne le maltraitèrent pas beaucoup, et ne me trouvant pas dans la maison, ils s'en allèrent. Ainsi je marchai de long en large dans les champs cette nuit-là et ne me couchai pas, comme il m'arrivait très souvent de faire. Le lendemain, nous vîmes à l'église où James Lancaster avait fixé la réunion. À cette réunion, il y avait 12 soldats et leurs femmes, venus de Carlisle, et les gens de la campagne affluèrent comme si c'eût été une foire. Je logeai dans une maison un peu en deçà du lieu, de sorte que beaucoup d'amis étaient arrivés avant moi. Quand j'arrivai, je trouvai James Lancaster parlant sous un if, qui était si plein de monde que je craignais qu'il ne le fisse tomber. Je cherchai un endroit où me tenir pour parler au peuple, car ils étaient étendus de part et d'autre, comme des gens à une ligue. Après que j'eus été reconnu, un professeur demanda si je ne voulais pas entrer dans l'église. Ne voyant aucun endroit dehors qui fût commode pour parler au peuple, je lui dis oui. Alors le peuple se précipita à l'intérieur, si bien que lorsque j'arrivai, la maison et la chaire étaient si pleines que j'eus beaucoup de peine à entrer. Ceux qui ne purent entrer restèrent dehors le long des murs. Quand les gens furent installés, je me tins debout sur un banc. Et le Seigneur ouvrit ma bouche pour déclarer sa vérité éternelle et son jour éternel, et pour dévoiler leur maître, ainsi que les rudiments, traditions et inventions sous lesquelles ils avaient été dans la nuit de l'apostasie depuis les jours des apôtres. Je les tournai vers Christ, le vrai maître, et vers le vrai culte spirituel, les dirigeant là où trouver l'esprit et la vérité, afin qu'ils puissent y adorer Dieu. Je leur expliquai les paraboles du Christ et les dirigeai vers l'Esprit de Dieu en eux-mêmes, qui leur ouvrirait les Écritures. Je leur montrai comment tous pouvaient venir à connaître leur Sauveur, s'asseoir sous son enseignement, devenir héritiers du royaume de Dieu, et connaître la voie de Dieu et du Christ, par laquelle ils pourraient découvrir tous les faux bergers et maîtres sous lesquels ils avaient été, et être rassemblés aux vrais bergers, prêtres, évêques et prophètes, Christ Jésus, que Dieu a commandé à tous d'écouter. Après avoir déclaré amplement la parole de vie pendant environ 3 heures, je me retirai du milieu du peuple, qui s'en alla pleinement satisfait. Parmi les autres, un professeur me suivit, me louant et me recommandant, mais ses paroles étaient pour moi comme un chardon. À la fin, je me retournai et lui dis, « Crains le Seigneur », sur quoi le prêtre Larkham, de Cockemus, car plusieurs prêtres qui étaient venus après la fin de la réunion s'étaient rassemblés sur le chemin, me dit, « Monsieur, pourquoi jugez-vous ainsi? Vous ne devez pas juger. » Je me tournai vers lui et dis, « Ami, ne discernez-vous pas une exhortation d'un jugement? Je l'ai exhorté à craindre Dieu, et vous dites que je le juge. » Ainsi ce prêtre et moi entrâmes en discussion, et je lui montrai qu'il était parmi les faux prophètes et les mercenaires cupides, et plusieurs, étant poussés à leur parler, lui et 2 autres prêtres s'en allèrent bientôt. Lorsqu'ils furent partis, John Wilkinson, prédicateur de cette paroisse et de 2 autres en Cumberland, commença à disputer contre sa propre conscience pendant plusieurs heures, jusqu'à ce que le peuple se tourna généralement contre lui, car il pensait m'avoir à l'usure, mais la puissance du Seigneur lutte à l'usure, et la vérité du Seigneur vint sur lui et sur eux tous. Plusieurs centaines furent convaincus ce jour-là, qui reçurent le Seigneur Jésus-Christ et son enseignement gratuit avec joie, dont certains sont morts dans la vérité, et beaucoup demeurent de fidèles témoins de cela. Les soldats aussi furent convaincus, ainsi que leurs femmes, et restèrent avec moi jusqu'au premier jour. Le premier jour, j'allai à l'église de Cockemus, où vivait le prêtre Larkham. Quand il eut fini, je commençai à parler, et le peuple commença à être grossier, mais les soldats leur dirent que nous n'avions enfreint aucune loi, et ils se calmèrent. Alors je me tournai vers le prêtre, et je le dévoilai parmi les faux prophètes et les mercenaires. À ces mots il s'en alla, disant, « Ils me traitent de mercenaire, ce qui était vrai, tout le peuple le savait. » Quelques notables de la ville dirent, « Monsieur, nous n'avons pas d'hommes savants pour disputer avec vous. » Je leur dis que je n'étais pas venu pour disputer, mais pour leur montrer le chemin du salut, le chemin de la vie éternelle. Je leur déclarai largement le chemin de la vie et de la vérité, et les dirigeai vers Christ, leur maître, qui mourut pour eux et les racheta par son sang. Quand j'eus fini, je fis environ 2 milles jusqu'à une autre grande église de John Wilkinson, appelée Brigham, où les gens, ayant été à l'autre réunion, étaient profondément touchés et voulaient mettre mon cheval dans la cour de l'église, mais je dis non, le prêtre est propriétaire de la cour, menez-le à une auberge. Quand j'arrivai dans la cour de l'église, je vis le peuple arriver en grand groupe, comme les foules d'une foire, et beaucoup s'étaient déjà rassemblés dans les chemins et autour de l'église. J'avais très soif et je marchai environ 1/4 mile jusqu'à un ruisseau où je bus un peu d'eau et me rafraîchis. En remontant vers la cour, je rencontrai Wilkinson, et en passant près de lui, il dit, « Monsieur, prêcherez-vous aujourd'hui? Si vous prêchez aujourd'hui, je ne m'opposerai pas à vous en parole ni en pensée. » Je répondis, « Opposez-vous, si vous voulez, j'ai quelque chose à dire au peuple, et l'autre jour vous avez agi sottement, et parlé contre votre conscience et votre raison à tel point que votre assemblée a crié contre vous. Je le laissai donc et continuai, car il vit qu'il était inutile de s'opposer à moi quand le peuple était si touché par la vérité du Seigneur. Quand j'arrivai dans la cour de l'église, un professeur demanda si je ne voulais pas entrer dans l'église, et ne voyant aucun endroit commode dehors pour tenir réunion, j'entrai, et après que les gens furent installés, je me tins debout sur un banc. Le prêtre entra aussi, mais ne monta pas en chair. Le Seigneur ouvrit ma bouche, et je déclarai au peuple sa vérité éternelle et la parole de vie, les dirigeant vers l'Esprit de Dieu en eux-mêmes, par lequel ils pourraient connaître Dieu, Christ et les Écritures, et parvenir à une communion céleste dans l'Esprit. Je leur déclarai que chacun qui vient au monde est éclairé par Christ, la vie. Par cette lumière ils peuvent voir leurs péchés, ainsi que Christ, venu pour les sauver de leurs péchés, est mort pour eux. Et s'ils venaient à marcher dans cette lumière, en elle ils pourraient voir Christ comme l'auteur de leur foi, l'achèvement de leur foi, leur berger pour les nourrir, leur prêtre pour les enseigner, leur grand prophète pour leur ouvrir les mystères divins, et pour être toujours présent avec eux. Je leur expliquai aussi, dans les révélations du Seigneur, la première alliance, leur montrant les figures et la substance de ces figures, les conduisant à Christ, le médiateur de la nouvelle alliance. Je leur manifestai encore qu'il y avait eu une nuit d'apostasie depuis les jours des apôtres, mais qu'à présent l'évangile éternel était prêché de nouveau, lequel mettait en lumière la vie et l'immortalité, et que le jour du Seigneur était venu, et que Christ était venu enseigner lui-même son peuple par sa lumière, sa grâce, sa puissance et son esprit. Le Seigneur me donna ce jour-là une belle occasion de prêcher la vérité pendant environ 3 heures, et tout fut calme. Plusieurs centaines furent convaincus, et certains d'entre eux louèrent Dieu et dirent « Maintenant, nous connaissons le premier pas vers la paix ». Le prédicateur aussi dit en privé à quelques-uns de son assemblée que je les avais brisés et renversés. 1, 2, 3, 4 retours suivants.